Bon matin dimanche, saison 2024-2025, épisode 25. Votre demi-heure, voire certainement un peu plus ce matin d'actualité sportive sur Colline avec des invités, des réactions, bien entendu des résultats. On est avec Dominique Cadu pour ce rendez-vous emblématique du sport sur Colline et avec une grosse partie foot ce matin. Nous débuterons avec un premier invité, Emmanuel Roux, journaliste sportif. Il a notamment un projet de livre sur les chamois à l'occasion du centenaire du club. En régional 1, Noël Zobi a dominé Hill. Réaction du coach Sébastien Cuvier. En régional 2, Partenay Viennet s'est imposé face à Thouars. L'entraîneur Jason Henry sera avec nous pour en parler. En régional 3, la Cerise s'est imposée face à Vrine. Analyse du coach Cédric Fuseau. Nous terminons la page foot en mettant en lumière le club de Coulonges-Touarçais avec son co-président Mickaël Bernard. Nous terminons avec du cyclisme ce matin. Philippe Fournier, co-président du BAC, vient évoquer le circuit du Bocage qui a lieu aujourd'hui à Bressuire. La météo de votre dimanche, nous avons un peu de neige ce matin avant l'après-midi pluvieux. Les éclaircies reviennent en fin de journée, minimale autour de 0 degré, pas plus de 4 à 6 pour les maximales. Sport matin dimanche du 16 mars, c'est parti.
Sport matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toute marque.
Bonjour Dominique.
Bonjour David, bonjour à nos fidèles auditeurs, dont Paul, supporter de Fenouartère, Monique, Pierrot, l'ancien brillant attaquant de Chiché, Guy, le chapelet, et Françoise, dont c'était hier l'anniversaire.
Mais bon anniversaire, Françoise. Dominique, on ouvre ce sport matin dimanche avec un premier invité.
Oui, Emmanuel Roux, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Roux, vous êtes âgé de 49 ans, Annie. Natif de Strasbourg, vous êtes arrivé à Niort à l'âge de 8 ans, vos parents étant nommés conseiller d'éducation, puis proviseur adjoint dans la capitale de Sèvrienne. Grand supporter des Chamois Niortais depuis 85, vous avez été stagiaire à la radio D4B de Mel et au quotidien Le Corée d'Ouest, avant de rejoindre France 3 Poitiers depuis 2005 à Paris, France Télévisions. Comme journaliste à l'émission Tout le Sport. Spécialiste de hand depuis 20 ans, vous avez couvert 6 Jeux Olympiques, Sydney, Pékin, Londres, Rio, Tokyo, Paris, commentant en direct les finales des équipes de France de hand garçon-fille, médaillé d'or aux Jeux de Tokyo. Pour le journaliste que vous êtes, n'est-ce pas très modestement un palmarès de choix ?
Palmarès de choix, oui, on se sent un peu privilégié, quoi. C'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'aller suivre des grandes compétitions, vous l'avez dit, les Jeux Olympiques, des championnats du monde avec l'équipe de France de hand, au moment où en plus elle a commencé à tout gagner, donc c'est un beau palmarès.
Et comment prépare-t-on de tels événements lorsqu'on s'adresse en direct à des millions de téléspectateurs ?
Comment on prépare ? En côtoyant les équipes de France, je vais pas dire au quotidien, parce que de toute façon, se retrouve qu'à certains moments dans l'année, mais en y étant le plus souvent possible. Là encore dernièrement, il y a 2 jours pour France-Danemark à Lyon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on... Je pense en étant au plus près de ces équipes-là, on tisse un peu des relations et puis on se tient informé de l'actualité de ces équipes. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure préparation.
Et depuis 20 ans ?
Depuis, 20 ans quasiment, ouais. Parce que la première compétition, enfin un petit peu moins, la première compétition que j'ai suivie, c'était en 2008, l'Euro, l'année où du premier titre olympique de l'équipe de France, avec Claude Onesta pour entraîneur.
Et vous continuez, tout en étant très loin par moment, à suivre l'actualité sportive de Sèvrienne. D'où est née cette passion pour les chamois ? Vous avez vu votre premier match entre Niort et Caen en août 1985.
Exactement. Depuis ce match-là, en fait, c'était la première fois que j'allais dans un stade. Et ça m'a plu. Et puis c'est vrai qu'on se prend au jeu, on se tient informé des résultats, des petits échos dans France Football à l'époque, des choses comme ça. Et puis on se prend au jeu. C'est vrai que je suis né à Strasbourg, mais j'ai pas eu cette passion pour le Racing. J'ai vécu en Alsace que durant les premières années de ma vie, donc j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Et en fait, cette passion-là, elle est venue plus tard, au moment où j'étais à Niort, et donc c'est tombé sur les chamois.
Alors vous auriez pu vous contenter de suivre les chamois comme ça, mais le 12 mai 2017, vous avez magnifiquement organisé à Niort les retrouvailles des chamois, 30 ans après leur montée de D1, D2 en D1, c'était la saison 1986-87. Il y avait Patrick Parizon, Abidi Pelé, et cette formidable équipe. Que vous inspirait-elle pour que vous soyez à ce point heureux de suivre cette équipe ?
Ah ben c'est l'équipe, c'est je pense que s'il y a une année à retenir, je pense, dans l'histoire des Chamois, c'est quand même une saison, en tout cas, c'est quand même celle-là. C'est vrai que la montée en première division, c'était historique pour le club, ça s'est jamais reproduit depuis. Et c'est vrai qu'il y a une grosse nostalgie vis-à-vis de cette période-là, quand on est supporter des Chamois. Et voilà, c'était l'occasion, les 30 ans. J'y avais un petit peu pensé au moment des 20, puis ça n'avait pas pu se faire. Je crois que certains joueurs, les plus jeunes, avaient tout juste arrêté. Ou enfin voilà, c'était encore un peu tôt. Et voilà, donc là, les 30 ans, ça s'est bien goupillé. L'idée au départ, c'était quand même de faire revenir Abedi Pelé à New York. Il n'était jamais revenu depuis son départ en 87. Donc voilà, ça a pu se faire. C'était assez compliqué. Il a fallu le relancer pas mal de fois. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que quasiment tous les joueurs répondent présents. Il en manquait que 3 à l'arrivée. Voilà. Pas faute de les avoir relancés, mais donc voilà, quasiment tout le monde était là, et c'est vrai que je pense qu'ils ont eu tous à jouer le bonheur de se retrouver. Voilà, on a l'impression d'avoir un peu des anciens camarades de classe. Enfin, c'était très sympa, quoi. Vraiment, c'était un bon moment, et ça reste une certaine fierté d'avoir pu organiser ce moment-là, quoi.
C'était quoi cette équipe à l'époque? Quels sont vos souvenirs que vous avez?
Ben voilà, c'était la joie, c'était de monter un truc qui avait jamais été fait, surtout dans une ville quand même plutôt j'allais dire une petite ville, mais une ville plutôt moyenne comme New York. Ils connaissaient pas ça, et voilà, du coup on avait des joueurs, c'était un peu nos stars à nous, quoi, qu'on pouvait croiser dans le bas de la place de la Brèche. Les gens les saluaient comme ça, c'était je sais pas, voilà. C'est, et puis oui, il y avait le fait de quasiment tout gagner. Ils gagnent leurs 7 premiers matchs cette saison-là, il y a 3 défaites, ils encaissent seulement 15 buts. Enfin, c'était pas des invincibles, parce qu'il voilà, il y a eu quand même ces 3 défaites, mais c'était une équipe incroyable, quoi. On s'est pris au jeu, quoi. On s'est pris au jeu de la montée et à l'effervescence qui accompagnait tout ce groupe.
Et vous avez apprécié tous les gens, c'est-à-dire de l'entraîneur, l'emblématique Patrick Parizon à Abedi Pelé.
Oui, c'est ça. Et bon, alors voilà, ça fait un peu déjà un peu ancien combattant, mais c'est un peu le foot des années 80, quoi. C'était encore des gens qui étaient encore accessibles, qui le sont restés depuis, et voilà. Donc du coup, on peut sans problème prendre un café, boire un coup avec eux, reparler un peu de toute cette période-là, se raconter des anecdotes, enfin des choses qu'on n'a plus trop l'habitude de voir maintenant. Voilà, en tout cas, moi, c'est le foot que j'aime bien, quoi.
Alors aujourd'hui, les Chamois sont malheureusement en Régional 3, toujours menacés d'une complète disparition. Quel est votre avis sur cette descente aux enfers?
Je pense, comme tous les amoureux de Chamois, c'est vrai que ça fait vraiment mal au cœur, quoi. On a vraiment un sentiment de gâchis incroyable. De la part de personnes qui ont joué avec le feu, qui ont joué avec l'argent des autres, très vraisemblablement, et puis voilà, qui ont mis sur le carreau plusieurs salariés du club. Je crois qu'il en reste plus que 2 maintenant parmi les éducateurs. C'est un vrai gâchis, quoi, parce que c'était Niort, il y avait cette image de club sympa, de club formateur. Il y a quantité de très bons joueurs qui sont sortis de ce centre qui a fermé maintenant il y a quelques temps, et voilà, c'est vraiment un vrai sentiment de gâchis, quoi. Je trouve que quand on parle de Niort, souvent les Chamois, c'était des premiers trucs qui venaient quand on parlait de cette ville. Et cette ville, moi, je me souviens toujours de la réflexion de... j'avais mon professeur d'histoire géo là au collège Rabelais à Niort, et un jour il avait dit, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé autant de Niort que quand les Chamois étaient en première division. C'était une très bonne publicité pour la ville, et maintenant évidemment, quand on est en 8e division, c'est un peu plus difficile de faire parler de soi.
Alors vous avez été l'un des premiers comme supporter à dire attention, le club va mal, et vous l'avez dit ça il y a quelques années.
Oui, je sais pas si j'étais le premier, mais je pense que c'est vrai que le ressenti n'a pas été bon très rapidement, parce que déjà la façon dont le club a été cédé à ces personnes-là, je m'en souviendrai toujours, c'était à 48 heures d'un début de saison. Enfin, c'était un peu en catimini, un peu au dernier moment. C'était quand même très louche la façon dont ça se passait. Enfin voilà, d'ailleurs ça a été sanctionné par la suite d'une amende de 250 000 euros et l'exclusion d'un an de la Coupe de France. Donc voilà, j'avais un mauvais pressentiment, quoi. C'est vrai que la façon dont ça s'est fait m'a pas plu dès le départ, et malheureusement ça a été confirmé par tout ce qui s'est passé depuis.
En tant que supporter aussi, mais aussi journaliste, vous avez un nouveau projet, c'est écrire un livre sur les 100 personnages qui ont fait les 100 années des Chamois-Niortais, anniversaire qui va se fêter en cette année 2025. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre projet ?
Oui, c'était une idée pour marquer un peu le coup. C'est vrai que c'est le centenaire d'un club, c'est quand même pas anodin. Alors malheureusement, ça tombe vraiment pas la bonne année, hein, si je puis dire. Là, c'est vrai que c'est... je crois que le pire, c'était pas possible, hein, mais voilà, c'était l'idée de marquer le coup, susciter un peu l'intérêt, peut-être, je sais pas, de d'éventuels sponsors à venir. C'était surtout pour marquer le coup, vraiment, et ne pas oublier les Chamois, ne pas oublier tous les joueurs qui sont passés par ce club, ceux qui se sont révélés, ceux qui doivent une partie de leur carrière au centre de formation des Chamois. Donc voilà, c'était une idée un petit peu comme ça. C'est un chantier un peu, hein, parce que je pensais pas l'idée c'était effectivement de reparler des 100 joueurs les plus marquants de Niort, mais
100 joueurs et dirigeants.
Et dirigeants et même suiveurs et entraîneurs. Enfin voilà, les 100 qui ont fait les Chamois. Et bon, je pensais que ce serait compliqué d'établir une liste, alors ça l'est, mais plus par la quantité, c'est vrai, de joueurs, de dirigeants, d'entraîneurs qui ont marqué le club, donc il faut procéder par élimination, et très franchement c'est pas évident, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont beaucoup apporté au club, et voilà, et à la limite 100 ce serait presque pas suffisant, il faudrait peut-être attendre les 200 si le club existe toujours.
Et dans les 100 personnages, il y a aussi des gens qui ont marqué le club d'une façon négative ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a que ces
belles
histoires ?
Non, l'idée c'était vraiment de passer sous silence un peu ces dernières années et de faire le moins de publicité possible aux personnes qui ont plongé le club dans ce marasme là. Donc qu'il soit le moins cité possible. Donc voilà, c'est les gens qui ont apporté au club et qui voilà, et c'est de notoriété, ils sont toujours appréciés, ils sont toujours là pour la plupart. Et pas ceux qui sont passés d'une façon éphémère ou qui ont plongé le club dans la difficulté, quoi.
Et dans les 100, il y aura Abedi Pelé.
Évidemment, bien sûr, Abedi Pelé, bien sûr Pascal Gastien, bien sûr Franck Azopardi, enfin voilà, je vais pas tous les citer, Patrick Parizon évidemment, évidemment beaucoup de joueurs de la période 86-87, hein, de la montée et de l'année suivante en première division, même si voilà, bon, il y a eu quelques mercenaires à l'époque, hein, tout n'a pas été rose avec la montée en première division, d'ailleurs le club l'a un peu payé par la suite, il y a eu un premier dépôt de bilan en 91, reparler un peu plutôt des bonnes périodes, on va dire.
Votre autre grande passion, c'est le marathon, on le sait peut-être pas, mais vous avez disputé 20 marathons. Alors le temps est anecdotique, mais tous ceux qui font du marathon vous diront que le faire en 4h15, 4h30, c'est déjà pas mal. Vous avez fait les plus grands marathons du monde, à New York, à Boston, Chicago, Londres, Tokyo, Berlin. Vous fêterez vos 50 ans l'an prochain en disputant à nouveau le marathon de New York. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette discipline qui est quand même assez ingrate? Courir 42 km 195, c'est pas donné à tout le monde.
Oui, mais ça demande beaucoup d'abnégation dans l'entraînement, de l'acharnement. Il faut ne pas se décourager. Il faut savoir doser son effort. C'est plein de trucs, je trouve, très important et qui, moi, me servent dans ma vie de tous les jours. Donc, ne pas lâcher. Même dans les moments difficiles, il faut s'accrocher. Je me souviendrai toujours une réflexion d'Alain Mimoun. J'avais eu la chance, champion olympique de marathon qui est décédé malheureusement, mais j'avais eu l'occasion de faire un reportage avec lui peu de temps avant sa mort, et on lui avait fait rencontrer comme ça une néophyte, et il avait dit le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne jamais abandonner, parce que si vous abandonnez, vous en souviendrez toute votre vie. Et ça, c'est donc voilà, si même en cas de coup dur, on marche un peu, on récupère et puis on repart. Et je trouve que cette réflexion-là, ça m'est restée. J'y pense assez souvent, notamment en faisant du marathon, mais aussi à d'autres moments.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite en 2025, donc le projet de livre, et est-ce qu'on vous souhaite à plus ou moins long terme d'être un jour président des Chamois Niortais?
Non, pas président, parce que j'ai rencontré une seule fois, mais on a très vite sympathisé. Florimond Labulle, je lui souhaite vraiment plein de réussite. Je vois que c'est très compliqué, je suis pas étonné, voilà, parce qu'il y a encore un passif à éponger. Et vraiment, j'espère qu'il va y arriver, mais je trouve que c'est très compliqué, c'est vraiment un boulot de fou. Et être dans la communication, un responsable communication d'un club, pourquoi pas, mais président, je trouve que c'est trop compliqué pour moi. Il faut connaître un peu ses limites, et moi je pense pas en être capable. Voilà, il y a quand même toute une partie à maîtriser, un peu juridique, les contrats, tout ça, c'est toute une partie qui m'échappe, et je me sentirais pas très à l'aise dans ce rôle-là.
Emmanuel Roux, merci beaucoup, et puis bon vent dans vos prochains reportages. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année en grand reportage?
Cette année, on rentre un petit peu dans la période un peu calme, hein, parce que donc les mondiaux de handball sont passés. Là il y a un championnat du monde d'athlétisme là en septembre à Tokyo. Je pense qu'il y aura quelques reportages à faire en prévision. On a une vice championne olympique sur 100 mètres haies. Irena Sambamayi est là. Là j'essaye de faire un petit truc sur elle. Elle est partie aux États-Unis et peut-être faire un petit suivi. Jusqu'au championnat du monde.
Merci beaucoup Emmanuel Roux, merci encore.
Merci Dominique, au revoir.
Allez, on rappelle les résultats de Ligue 1, les matchs à venir aussi. Vendredi, Nice et Auxerre s'étaient quittés sur un nul, un but partout. Hier, Nantes a battu Lille, 1-0, ça fait du bien aux Canaries. Monaco s'est imposé 2-0 à Angers. Lens a dominé Rennes sur le plus petit des scores, 1-0. Aujourd'hui, Lyon accueille Le Havre, Brest reçoit Reims, Montpellier est opposé à Saint-Etienne, Strasbourg reçoit Toulouse, et puis ça se termine ce soir par ce duel Paris Saint-Germain-Marseille. La Ligue 2 avec les résultats vendredi, LAC Ajaccio avait battu le Restar 2-1, la victoire 2-1 aussi pour Amiens face à Caen, 1-1 entre Annecy et Rodez, 0-0 entre Clermont et Grenoble, 2-2 entre Martigues et Pau, la victoire de Guingamp à 3-1-0. Ce samedi, sachez que Metz est allé s'imposer à Dunkerque 3-2, que Laval a battu le Paris FC à 3-0 et que Lorient a dominé 4-0 l'équipe du SC Bastia. Les résultats de National avec la victoire 1-0 de Aubagne face à Bourg-Péronas, la victoire de Concarneau 4-2 face à Versailles, Le Mans domine Châteauroux 2-0, victoire de Nancy face à Quevilly 4-1, 0-0 entre Nîmes et Dijon, Villefranche qui va s'imposer à Rouen sur le score de 4-2, la victoire le match nul entre l'US Orléans et Boulogne, un nouveau but de l'ex-Bressuirais Thibaut Rambaud, la victoire enfin de Valenciennes face à Sochaux 1-0, la Nationale 2 avec vendredi Granville qui s'était imposé sur la pelouse des 1-0, il y avait eu 0-0 entre Saint-Malo et Poitiers. Hier, Avranches a battu Bordeaux à 3-2, il y a eu 1-1 entre Blois et Bourges, victoire de Châteaubriant face à Saumur 3-0, 3-0 aussi La Roche-sur-Yon qui domine Locminé Saint-Colomban, 3-1 la victoire de Dinan-Leon sur la pelouse de Saint-Privé Saint-Hilaire, et enfin Saint-Brieuc qui bat Le Poiré 1-0. La Nationale 3, 0-0 entre Saint-Philbert et Vertou, 1-1 entre Chalon et Laval, 0-0 entre Fontenay et Sablé. Festival pour le moment de match nul, mais non, des victoires aussi pour la Rochezeau qui a dominé Angers 2-1, la Châtaigneraie s'impose 1-0 à Rennes TA, et puis victoire de la réserve de Nantes face à Vitré 2-0. Notez que Choret joue aujourd'hui, déplacement de Choret à Panazol. La régionale 1 avec la victoire de Cause à Buxerolles 3-2, 1-1 entre Fétia et Brive, la victoire de Neuville face à Bressuire 2-1, la victoire d'Angoulême-Charente sur la pelouse de Périgny 1-0, et puis Thouars qui s'incline à domicile battu par Rochefort 2-1. Dominique.
Oui, Jacky Pollet, l'un des entraîneurs du FC Bressuire, nous disait que le FCB a manqué hier soir sa première mi-temps. Serra a arrêté un pénalty à la 12e, mais les locaux ont inscrit 2 buts. Au repos, le FCB a fait rentrer 3 remplaçants, a dominé, mais n'a fait que réduire le score par le Ray. C'est insuffisant. Le derby dans 15 jours face à Thouars sera important, les Thouarsais ayant eux aussi perdu 2-1 face à Rochefort.
Et puis dans cette régionale, une dernière score, c'est Noyobier qui s'impose face à Hill, 3-1. Le FC Noyobier s'est réveillé en seconde mi-temps, l'entraîneur Sébastien Cuvier.
Oui, c'est peu de le dire, parce que on a fait une première mi-temps, je vais dire, très très insipide. Voilà, très peu d'envie, très peu de jeu, très peu de combativité. On a laissé cette équipe de Hill manœuvré tranquillement et logiquement ils ont ouvert le score. Donc je vais même être un petit peu dur, je me suis ennuyé sur la première mi-temps. Et puis à la pause, il a fallu recadrer les choses, retrouver certains fondamentaux, voilà, notamment sur c'était un match important, parce que c'est quand même un match avec un adversaire qui lutte pour le maintien. Et puis en leur expliquant que il fallait parfois il y avait des matchs qui pouvaient switcher comme ça sur peut-être un exploit personnel parce que collectivement on n'était pas bon, j'avais pas d'argument à faire valoir dans ce sens-là. Et c'est ce qui s'est passé en deux minutes avec le but d'Alex Tricoire et puis Mouloud, quoi. Voilà.
C'est le rôle d'un entraîneur comme vous, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, vous avez élevé la voix ou pas?
Oui, on va dire que j'ai élevé la voix, oui, parce que j'ai même été plus loin, j'ai l'impression qu'ils étaient sous Xanax, tellement c'était affligeant le comportement des 11 joueurs, hein, c'était pas uniquement un ou deux, donc oui, j'ai élevé la voix, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait du mal à la table qui est dans le vestiaire, mais voilà, ça fait partie des choses d'un entraîneur qui m'arrive très rarement, mais bon, sur ce coup-là, j'étais très très mécontent de la prestation des joueurs de la première mi-temps.
Ouais, la table du vestiaire de Noël Desobi qui s'en souvient pourtant de Noyobier, donc qui a battu Hill 3-1, c'était l'entraîneur Sébastien Cuvier. Sébastien, il n'a pas encore décidé pour la saison prochaine, il aimerait que le club ait plus de moyens pour ne pas jouer seulement le maintien. On attaque la régionale 2 dans la poule A avec Poitiers qui s'imposait à Ligugé 2-1, victoire de Ruffec 2-1 également à Saint-Savin-Saint-Germain, victoire de Beaumont 4-1 à Dompierre-sur-Mer, et puis Partenay-Vienne. Dominique a dominé la réserve de Thouars 2-0.
Oui, nous sommes en direct aujourd'hui avec Jason Henry. Jason Henry, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Partenay invaincu en championnat, 11 victoires, 5 nuls, a confirmé sa première place hier soir en s'imposant 2-0 face à la réserve de Thouars. Vous avez au moins 5 points d'avance sur Chauvigny et la réserve de Poitiers, qui, ces deux clubs, ont des matchs en retard. Est-ce pour votre club un pas de plus vers la montée?
Forcément, il restait 7 marches à gravir, on en a gravi une hier soir, donc effectivement on continue d'avancer, mais bon, comme je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, c'est encore long, 6 matchs c'est encore long, 18 points à prendre, on en a que 5 d'avance, donc il va falloir encore mettre le bleu de chauffe et continuer sur notre lancée.
Troisième l'an passé, Partenay a de l'ambition, est-ce la confirmation du potentiel gâtinais?
Oui, alors au début, je suis arrivé cette année et le club ne m'a pas mis de pression. Ils m'ont juste demandé de se sauver pour la première année et après on ajusterait sur la saison prochaine. Donc j'avais pas de pression et finalement tout s'est bien enclenché et aujourd'hui effectivement on vise quelque chose de plus haut que l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison.
Alors vous le disiez, c'est votre première saison comme coach de Partenay, c'est déjà pour vous une belle réussite, vous qui avez succédé à Philippe Souchard. Vous avez évolué comme joueur en tant que milieu défensif au Stade Poitevin en CFA, vous êtes un jeune entraîneur, quelles sont les valeurs que vous prenez?
Alors moi c'est simple, hein, c'est le plaisir. Je veux que mes joueurs prennent plaisir à venir aux entraînements, prennent plaisir le jour du match. Je mets beaucoup de bienveillance aux entraînements. C'est essentiel. On est dans le monde amateur. Les joueurs ne sont pas payés. C'est pas leur profession. Donc, il faut que quand ils viennent sur le terrain, ça soit pas, qu'ils viennent pas reculant, que ça soit pas une obligation, que ça soit vraiment pour se vider la tête et prendre du plaisir.
Dernière question, Partenay bénéficie de superbes infrastructures avec le stade de l'Enjeu, un terrain en herbe et un terrain synthétique. Où situez-vous le niveau du club à l'actuel R2 ou en R1 et on vous le souhaite l'an prochain ou même au-dessus?
Au niveau infrastructure, c'est clair que le club n'a rien à faire en R2. On bénéficie, comme vous l'avez dit, de super installations. Ça permet de novembre à mars, quand pour beaucoup les terrains sont impraticables, ben nous on peut continuer à s'entraîner, on n'a pas de pause, on n'a aucun match en retard. Donc forcément ça joue sur la saison. Là où d'autres clubs ne peuvent pas s'entraîner et se retrouvent avec des matchs en retard. Donc forcément, on bénéficie de tout ça. Et pour avoir un petit peu joué en R1 la saison dernière, en termes d'infrastructure, on est largement au niveau. Ensuite, pour la N3, le terrain et le complexe est largement capable d'évoluer à N3, mais c'est un tout autre niveau. avec des besoins très spécifiques. Donc on n'en est pas du tout là. Mais c'est vrai que ces infrastructures, c'est tous les clubs qui viennent nous voir nous disent que c'est superbe.
D'abord l'accession en R1.
D'abord l'accession à R1, ça c'est sûr, et surtout si on avait le bonheur de monter, ce qui est encore une fois n'est vraiment pas encore fait, eh ben il faudra se maintenir puisque le club a déjà évolué en R1 et était redescendu. Donc le plus dur après quand vous êtes en R1, c'est d'y rester.
Jason Henry, merci et bon dimanche à vous. Merci encore.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci Jason Henry, le coach de Parthenay-Vienne, donc qui s'est imposé hein, dans cette régionale de Poula, je vous le rappelle, face à la réserve de Thouars, 2-0. Il lui reste deux matchs à jouer hein, cet après-midi. Le Talus accueille Chauvigny et Montcouton s'en va jouer à Auzon. La poussée de cette régionale 2 avec Jarnac qui a dominé largement Niort-Saint-Nigaire hier 5-0. Un partout entre Senon et Angoulême-le-Roi. Un partout aussi entre l'Alliance F3B et Sireuil. Cet après-midi, l'avenir 79 reçoit Saint-Yrieix. L'Étoile Maritime est opposée à Vincennes. Et puis le duel sud de Sévrien, Niort-Saint-Florent qui est opposé à la qui préserve de Choré. La Poula de Régional 3, Bressuire qui a battu Saint-Sauveur 2-0, victoire d'Aubin-Orthez 3-0 à Nintré. L'Alleu de Milchâtel-Lauro de Buzard, victoire de Cerizet face à Vrines, 3-0. Écoutez l'analyse du coach de Cerizet, Cédric Fuseau.
Bah, le constat, c'est qu'on est, heureux et satisfait de ce qu'on a pu proposer. Je pense qu'en termes de contenu, on a vraiment été intéressant en se créant beaucoup d'occasions. 3-4 en première mi-temps, 4-5 en deuxième mi-temps. On était peut-être un petit peu moins efficace que les matchs précédents, mais on s'est rendu les matchs faciles et on était plutôt cohérent dans la gestion du match après par la suite.
Quels sont vos trois buteurs?
Alors les trois buteurs d'hier soir, le premier c'est Tom Mofretta, le deuxième c'est Kylian Martin et le troisième en fin de match c'est Félix Fagbenro.
Et à la mi-temps,
il y avait 2-0, 2-0 à la mi-temps, on marque deux buts autour de la demi-heure de jeu. Donc après on était dans la même situation que la semaine dernière et on s'était dit à la mi-temps qu'il fallait essayer d'aller chercher le troisième but pour se rendre le match plus facile, parce qu'à 2-0 on était toujours dans l'incertitude. Si les adversaires reviennent à 2-1, c'est beaucoup plus compliqué après derrière. Et puis finalement le troisième but est arrivé vers la fin du match.
Cédric Fuseau, l'entraîneur de Cerizet, avec donc cette victoire de Cerizet face à Vrines à 3-0 dans cette poula de Régional 3. Il y a deux matchs encore à jouer cet après-midi. Beaumont reçoit l'Onis AFC, puis l'Interbocage est opposé à Chasseneuil Saint-Georges. La Régional 3 toujours poule B avec le match nul de partout entre les Sretaises et Buxerolles. Victoire du FC Otis, 2-1 à Chagny. Niel l'Espoir et Mignalou se sont quittés sur un nul, 3-0. Les Diables Rouges ont dominé Gatifoot 3-1. Les Diables Rouges passent en tête hein, devant Gatifoot. Et puis cet après-midi, Échiré Saint-Gelais est opposé à Ligugé. Sud-Gâtine reçoit Angoulême Basso. Poussée de cette régionale 3, Royan-Vaux s'impose à Cognac 2-1. Match nul entre Rochefort et Selverine 2-2. Victoire de Saint-André Cubzac face à Estuaire Audiron 2-1. Et puis victoire du Pays Mélois à Saint-Palais 3-2. L'équipe de Carl Touraine confirme son incroyable redressement ce dimanche 16 mars. L'opposition entre la réserve de Niort-Saint-Florent face au Chamois. Comment imaginer, il y a un an, une affiche, c'est vrai, entre la réserve de Saint-Florentaise et l'équipe Fagnon des Chamois. Départemental 1 et 2 pour terminer cette page foot avec un dernier invité. Hein. Pour terminer la page foot, on y revient dans un instant, mais pour les résultats, on termine avec Départemental 1 et 2. Vous dire qu'on joue tous les matchs en Départemental 1, pardon, ce dimanche. Chanteloup, Cours-les-Chapelles accueille le Talus. Niort-Saint-Nigaire est opposé à Saint-Aubin-le-Cloud. Pays de Loire joue face au pays néo-créchois. Saint-Serbouillet accueille Thouars. Savaren-Pierger est opposé à Hervaux Saint-Jean et puis Vouillé accueille le pays Mexanterre. Départemental 2, Poule Nord, on a joué un match hier. Gatifoot et Neuilly-Aubier se quittent sur un nul de partout. Cet après-midi, Beaulieu-Breuil, Cerizet, Bressuire, Voulmentin, Saint-Aubin, Montcoutan, Terve, Pays Argentonais, Portuguette, Cerizet et Saint-Sauveur, FC Comores. Et puis la poule sud de Départemental 2 avec deux résultats hier. Effrefort-Praec et Échiré-Saint-Gelais, pas de but entre les deux équipes, 0-0. Victoire du FC Boutonnais face à l'Avenir 79, 3-0. Cet après-midi, Beauvoir accueille Périgné, Choré est opposé à Mosée-sur-le-Mignon, le FC Otis joint face à Parthenay-Vianney et Frontenay-Saint-Symphorien face à la Venise Verte. Dernier invité donc Dominique de cette page football pour parler du club de Coulonges-Thouarsais.
Mickaël Bernard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes Mickaël, vous êtes coprésident avec Stéphane Morin de l'AS Coulonges-Thouarsais, club qui fête ses 85 ans d'existence en 2025, qui compte deux équipes seniors en D3 et D5, une formation de foot loisirs vétérans. Est-ce difficile pour votre club de tenir avec seulement une trentaine d'adhérents ?
Bah oui, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas, on est un peu plus de 30, une 33, oui, exactement. Et bah, c'est pas évident de faire, d'avoir suffisamment de monde tous les dimanches pour compléter, surtout souvent la deuxième équipe. Donc faut un petit, l'entraîneur c'est pas évident, faut te creuser un petit peu la tête et forcer un petit peu les gars à être toujours présents parce que c'est vrai que c'est pas évident de gérer un effectif assez court.
En championnat, vous jouez ce dimanche avril. L'équipe senior est sixième de son championnat à 15 points du leader Vraires Saint-Léger. Quelle est l'ambition en championnat de l'équipe qui est entraînée par Jonathan Porcher?
Ben actuellement, ben on est milieu de tableau, donc forcément on peut gérer que la partie au mieux, de toute façon on peut espérer que le haut de tableau, mais pour l'instant le maintien n'est pas encore assuré, donc aujourd'hui c'est un match important et mathématiquement après si on arrive à gagner aujourd'hui, déjà on sera plus à l'aise et après espérer une fin de saison un peu plus tranquille et puis étant donné qu'on est encore en coupe, essayer de profiter un maximum quoi.
On va en parler, vous êtes qualifié en Coupe Sabreau où vous recevrez Vraires en huitième de finale. Est-ce pour vous un objectif en sachant que Coulonges-Touarçais a déjà disputé une finale perdue contre Vouillé? Vous en souveniez puisque vous étiez joueur en équipe première à l'époque?
Oui, c'est un objectif d'aller plus loin possible en coupe, ça c'est sûr, parce que c'est vrai qu'il y a des très belles équipes en lice. L'objectif, oui, c'est de, une fois rendu là, de passer contre Vraires, ça c'est sûr. Et après, on verra ce qui viendra. La coupe, c'est assez incertain, mais c'est des bons moments, et surtout pour le club, des petits clubs comme nous, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, et puis ça permet aux supporters de venir, qui sont déjà très nombreux d'habitude, de venir, et que c'est des belle fête, donc c'est vrai que l'objectif c'est de passer ce tour-là, oui, en effet.
À titre personnel, vous avez été un excellent numéro 10, vous avez participé à cette finale de Coupe Sabreau et à deux montées successives en D3 et D2. Vous avez aussi évolué à Lozy en promotion de ligue et promotion d'honneur avant de revenir à Coulonges-Touarçais. Est-ce qu'il est plus difficile d'être joueur comme vous l'avez été ou d'être coprésident?
Je dirais coprésident, honnêtement, la partie présidence principale, c'est Stéphane Morin qui fait plus de boulot que moi, je dis franchement. Et du coup, c'est être joueur, c'est quand même, on profite uniquement des bons moments, on voit pas toujours le derrière de ce qui se passe. Et parce que gérer un club, c'est vrai que c'est pas facile, il y a beaucoup de boulot autour. Et quand on est joueur, c'est vrai qu'on profite plus des bons moments, mais les deux sont vraiment sympas. C'est vrai que je préférais la partie joueur parce que j'avais quelques années en moins et du coup on profite au maximum.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme dernière question à votre club?
Qui perdure le plus longtemps possible parce que c'est pas facile. On a niveau des licenciés, c'est pas évident. Niveau des jeunes, on est associé avec on est une association de TSO avec donc Coulonges, Mosérigny et Saint-Jean et Vrines. Et c'est déjà pas évident parce qu'on arrive tout juste à aligner deux équipes par catégorie et il y a de moins en moins de jeunes. Donc c'est vrai que le club, on espérait qu'il dure le plus longtemps possible, de voir les 90 ans. Je vous corrige un petit peu parce qu'on est rendu. Donc les 90 ans, ce serait en 2028. Donc oui. Le club a été créé en 1938. Et du coup, essayer d'aller jusqu'à ses 90 ans et sereinement, même si on sait que c'est pas facile. Et bon, on a un très bon entraîneur en place actuellement, donc on espère attirer quelques joueurs pour l'année prochaine. Et on a énormément de gens dévoués, des dirigeants et des gens de l'ombre autour qui font énormément de boulot. Et grâce à ça, c'est vrai qu'on arrive à perdurer pour l'instant, parce qu'on fait figure un petit peu de petits, parce que par rapport à toutes les gros groupements, on est encore tout seul, on fait un peu figure de Gaulois, je vais dire, et on est assez fiers de ça quand même. Donc
merci beaucoup Michael Bernard et je vous souhaite un bon dimanche et puis pourquoi pas d'aller gagner à Vrines.
Et voilà, merci beaucoup, merci à toute l'équipe de Colline et bon dimanche.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci Michael Bernard, co-président donc du club de Coulonges Toircey. On a encore quelques résultats à vous donner, puis on va marquer une page de pub et puis on terminera en parlant cyclisme en basket. Hein. Je vous rappelle que Cholet Basket s'est qualifié sans trembler face à Saragosse. Vous l'avez suivi avec nous sur Colline mercredi dernier. Qualification pour les demi-finales de la FIBA Europe Cup. Hein. Ce sera face aux Grecs du PAOK Salonique. Match aller en Grèce mercredi 26 mars. Le retour le mercredi 2 avril. Match retour évidemment que vous pourrez vivre avec nous sur Colline. La Pro B, notez que vendredi, Nantes s'est incliné à domicile face à Chalon-Reims 88-96 et que Poitiers a dominé Denain 96-79 en Wonder League. Vendredi, la victoire de La Roche-sur-Yon face à Séchartres 76-60. Et puis ce samedi, Angers qui a dominé Landerneau 86-70 en pré-national féminine. Les Bressuires jouent cet après-midi. Bressuires qui s'en va jouer à Limoges ABC en régional 2. Ça joue aussi cet après-midi pour Choré qui s'en va du côté de Jarnac. Et puis l'opposition entre Bressuire et le pays argentonais. Enfin en régional 2 masculine, sachez que ce samedi, Étré a battu Bressuire 79-69. Cet après-midi, la Esnior reçoit l'équipe de Civray. La page handball avec la D2 féminine et la défaite de celle sur Belle au Pouzin 25-21. Le club assélois qui prépare déjà la future saison. Perrine Petiot a prolongé son contrat de 2 ans. Laurine Perrault est la première recrue alors que Camille Planté rejoindra Nantes en National 1 féminine. Cet après-midi, celle sur Belle va jouer à Nantes en National 2 féminine. La défaite des Montcoutantaises à Saint-Sébastien hier, 36-30 en National 3 féminine. La victoire d'un petit but de Praec à Limoges, H87, 30-29, tandis que Lezay a perdu nettement à Aunis, 33-17. Enfin, pré-national masculine, Nioraglo a battu Biard, 38-32. Défaite de Lezay à Grand-Libournais, 39-19. En volleyball, chez les messieurs de la Nationale 2, ça joue cet après-midi. Le VBP s'en va jouer à Boulogne-Billancourt. Et puis le rugby régional 2, Nouvelle-Aquitaine, cet après-midi. Le COB 79 va du côté de Villeneuve. En régional 2, Pays de la Loire, Thouars accueille Pornic. En rugby, on salue au passage le jeune Charles Canté Samba, formé à Niort depuis peu au Stade Rochelet. Il a remporté avec l'équipe de France de rugby le tournoi des 6 nations U20 en s'imposant vendredi soir face à l'Écosse. Dernière partie de ce Sport Matin Dimanche, encore une belle émission riche avec un dernier invité pour clore ce Sport Matin Dimanche, Dominique.
Philippe Fournier, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous et à Colline FM.
Philippe Fournier, vous êtes co-président du Bressuire Activité Cycliste avec Nicolas Gourdon. Ce dimanche, le club organise le circuit du Bocage, course qui se déroulera à Bressuire. Départ et arrivée rue de Pont-de-Louis. 3 départs seront donnés à 14h30 pour les Open 2 et 3, à 14h32 pour les Access 1 et 2 et à 14h34 pour les Access 3 et 4. La boucle fait 12 km. Pouvez-vous nous dévoiler le parcours et y aura-t-il des difficultés importantes ?
Oui, alors donc le départ se trouve donc rue du Pont-de-Louis là. Nous allons vers le centre-ville là et au rond-point de Intersport, nous prenons à gauche la rue de la Vernière. Puis ensuite nous bifurquons également à gauche rue de la Cabane pour rejoindre la route d'Argentonnet qu'on utilise sur 2 à 3 km. On prend ensuite à gauche la route de Beaulieu sous Bressuire et on reprend à gauche de nouveau la D164, la route qui va de Voultegon à Bressuire, et nous arriverons donc rue du Pont-de-Louis où seront faites les arrivées.
Alors contrairement aux années passées, bon, il y a déjà beaucoup de difficultés, mais il n'y aura pas la rue Sarail, la fameuse montée de la rue Sarail. Pourquoi ?
Non, ça fait déjà 2 ans qu'on a enlevé la rue Sarail du parcours parce que pour un début de saison, hein, les courses ont repris simplement depuis fin février. Là, donc les coureurs ont une ou deux courses dans les jambes simplement. Le circuit était trop difficile en fait. Et donc les coureurs nous faisaient part de cette difficulté. Et on avait du mal à avoir un nombre de coureurs conséquent. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé la rue du Sarail. Mais néanmoins, le circuit reste relativement difficile. Avec la rue de la Vernière déjà, et puis qui monte bien. Et puis après, tout le retour là, de la route de Voltegon, où il y a de nombreux chauds plats qui sont usants.
Combien de coureurs vous attendez ?
Alors, donc là, j'ai regardé hier soir là, les engagés. Donc, dans la course open, on a 60 engagés. Et puis, dans les courses access, on a une cinquantaine d'engagés pour l'instant. Donc, ça fait 110, c'est un peu moindre que ce qu'on voulait, mais à savoir que les access peuvent s'engager sur place. Donc, c'est souvent le cas parce qu'ils attendent le dernier moment pour savoir si le temps est correct ou pas. Donc, on peut estimer à avoir 10 à 15 coureurs supplémentaires ce dimanche sur la ligne de départ.
Et quelques favoris se dégagent-ils dans cette liste que vous avez ?
Alors, pour la course open, ouais, il y a quelques coureurs. Donc, il y a Maxime Loiseau de la PSS Niort, là, qui est un habitué des podiums. Pour rester dans les coureurs des Deux-Sèvres du Vécétoire, il y a Marvin Delage ainsi que Valentin Tomaso qui font un bon début de saison. Pour les extérieurs, il y a Esteban Dupuis de Vivonne hein,
dans la Vienne.
Oui, dans la Vienne, voilà, merci. Et puis, il y a aussi David Carolis de Angers Métropole Cyclisme qui n'est autre que le frère de Romain Cardy.
Le professionnel.
Qui est professionnel chez Aubert Saint-Michel. Voilà un peu les noms que je peux citer pour l'instant. Et puis, il y a quelques coureurs extérieurs que je ne connais pas qui pourront peut-être créer la surprise.
Avant cette compétition, vous allez présenter en avant-première le matériel tandem handisport. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un projet qui a été mené par le département des Deux-Sèvres conjointement avec le comité départemental handicap. Donc, afin de promouvoir et sensibiliser et encourager la pratique du paracyclisme, les instances ont décidé d'acheter un tandem. Donc, il servira à l'ensemble des licenciés handicap des Deux-Sèvres qui veulent découvrir ou continuer la pratique du cyclisme. Donc, c'est lié plus particulièrement aux non-voyants.
D'accord.
Donc, voilà, le Rotary Club est donc le bienfaiteur de ce tandem. Et du fait que le Bressure Activité Cyclisme soit le seul club licencié FFH, Fédération Française Handicapée, donc on a été naturellement choisi pour piloter le projet. Donc voilà, il sera mis à disposition de tous les licenciés FFH qui veulent découvrir le paracyclisme.
Le BAC compte près de 140 adhérents. Quelles sont les ambitions du club sur route ?
Alors, le club a une vocation d'un club formateur. Donc, on a une école de vélo, donc pour les enfants de 8 à 12 ans, active et la plus fournie du département. Nous avons 35 licenciés chez les jeunes, là. Donc, nous, notre premier but, c'est de donner l'accès au vélo aux plus jeunes et leur donner l'envie de persévérer dans ce sport. Ensuite, pour les U17, donc ce sont les anciens cadets, là, les garçons de 15-16 ans, nous avons deux éléments qui vont participer au trophée Madio. Donc c'est un classement général sur 7 épreuves. C'est un moyen de détection de jeunes fait par la FDJ Groupama, qui est piloté par les frères Madio. Voilà, donc Brian, qui est en deuxième année, ira avec des ambitions cette année puisqu'il a déjà participé l'année dernière à quelques courses. Et puis nous aurons Baptiste aussi là qui lui est en première année, donc il fera son apprentissage sur ces épreuves.
On a parlé un peu de route. Bon, il y a une équipe senior, j'imagine, une équipe entre guillemets adulte.
Oui, donc essentiellement pour l'instant, donc les seniors sont en access là, ils sont assez jeunes hein, entre 20 et 30 ans, là. Donc, notre but, ce serait qu'ils puissent accéder à la catégorie open assez rapidement. On a des jeunes bon, qui sont à l'école, donc l'entraînement n'est pas toujours facile. Donc, on voudrait bien les accompagner pour qu'ils puissent monter les échelons petit à petit. D'ailleurs, la saison a bien commencé cette année puisque Paul Boulot a gagné sa première course de sa carrière la semaine dernière en access, donc en Loire-Atlantique. Un bon début de saison pour nous.
On a parlé route, le vélodrome de Bressuire porte le nom de Jacques Augendre qui est décédé récemment. Est-ce que le club compte lui rendre un hommage et quels sont les objectifs pour ce vélodrome?
Alors le vélodrome maintenant donc il est assez vétuste et il n'est plus homologué pour qu'on puisse faire des compétitions. Donc il nous sert comme entraînement tous les mardis soirs à partir des beaux jours, là, cours en mars, voire début avril, pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir une activité différente de la route, là, et leur apporter un peu d'agilité et puis un coup de pédale différent qui pourra être bénéfique pour les courses sur route.
Il manque beaucoup de choses pour remettre le vélodrome à flot.
Ouais, parce que c'est un vélodrome extérieur, donc tout le revêtement est un peu abîmé. Donc tous les ans, la ville, je les remercie d'ailleurs, nous la remettent en fonction avec des petits pansements, je veux dire. Mais l'idéal, ce serait de la refaire totalement, tout le revêtement, mais là, c'est un coût et pour l'instant, ce n'est pas envisagé par la ville.
Philippe Fournier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci Dominique. Quelques infos Dominique pour terminer ce Sport Matin Dimanche.
Oui, depuis vendredi et jusqu'à ce dimanche soir, le centre équestre de Bressuire accueille la première étape du circuit de concours de saut d'obstacles de Nouvelle-Aquitaine. Il y a près d'un millier de concurrents. En tir à l'arc, bravo à Julie Rigaud-Chupin, la Montcoutantaise, qui a obtenu un 9e titre national consécutif de paratir à l'arc indoor. Nouveau record de France avec 145 points sur un match. Et puis on vous conseille une randonnée, la randonnée de Vent Nouveau le 6 avril à Noirterre. Départ entre 7h45 et 10h à la salle du Noiron de Noirterre. Les bénéfices seront versés à la recherche sur la maladie d'Huntington.
Merci beaucoup Dominique.
Merci beaucoup David.